تطبطبطبطبيني تطبطمصي تيني زماني الغايب عالحياة الفرحة تطبطبطبطبيني تطبطمصي تيني زماني الغايب عالحياة الفرحة.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page, Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine littéraire et musical. Moi je lis et avec vous je partage. Et pour ce faire, ben, je chronique traditionnellement les ouvrages qui m'auront plu, beaucoup plu. J'interviewe les auteurs quand c'est possible et puis, et tout est là, je vous propose une playlist par ouvrage évoqué, histoire d'essayer un petit peu de décloisonner les genres, les gens, et de finalement essayer de parvenir à partager des émotions pour donner envie sans être élitiste, sans être enfermant. Au sommaire de ce numéro de Rock and Page, le second roman de Julia Kerninon, qui s'appelle Le dernier amour d'Attila Kiss et qui est paru aux éditions du Rouergue, dans leur excellente collection La Brune. Alors, mon rapport à Julia Kerninon est tout à fait particulier. Je l'ai découvert dans le roman d'Emmanuel Richard qui était chroniqué dans Rock and Page la semaine dernière. Emmanuel Richard cite Julia Kerninon et la phrase a fait tellement écho en moi que je suis allée tout de suite chercher qui était cette Julia Kerninon et qu'est-ce qu'elle avait donc écrit, etc. Je suis tombée dans un premier temps sur son premier roman, Buvard, et puis est arrivé avec cette rentrée littéraire de janvier, Le dernier amour d'Attila Kiss. Eh bien, moi, Le dernier amour d'Attila Kiss, je vais vous le dire en musique d'ici quelques instants. Et j'ai l'immense honneur de vous annoncer que Julia Kerninon, d'ici une poignée de minutes, répondra pour vous et moi à toutes mes questions.
Thank you.
once more.
Beyrouth pour vous planter le décor, messieurs, dames, du dernier roman de Julia Carninon qui s'appelle Le dernier amour d'Attila Kiss, cette toute jeune française, Julia Carninon, qui vient de sortir son roman aux éditions du Rouergue. Alors, je vous le disais dans le sommaire de l'émission, j'ai commencé à lire Julia Carninon par le début, c'est-à-dire j'ai commencé par son premier roman, Buvard, qui m'a alors littéralement scotché et qui magnifie, dans une certaine mesure, la rencontre entre un lecteur qui est journaliste, un jeune homme de 26 ans, Lou, qui écrit à l'auteur qui suscite pour lui le plus d'admiration, Caroline N. Spacek, et qui, elle, va accepter de le recevoir chez elle. Ils vont rester tous les deux dans sa maison 9 semaines, un été, et elle va finalement lui raconter toute sa vie. Et elle va le faire parce qu'elle va probablement, c'est pas dit comme ça évidemment, mais reconnaître en lui des bribes d'un passé qu'ils auraient pu avoir commun. Et là, je ne déflorerai rien au plaisir de la lecture, je ne vous dirai rien de plus. Peut-être qu'il était le seul à pouvoir bénéficier d'une telle confiance auprès d'elle. Et donc, il va recueillir sa vie entière, livrée par elle, alors avec tout ce que ça a de subjectif, bien sûr. Mais voilà, Buvard était déjà en soi un premier roman tout à fait, mais vraiment exceptionnel. Donc du coup, normal, en bonne lectrice, j'attends le nouveau Julia Carninon. Et voilà qu'il arrive avec ce titre qui est déjà en soi magnifique, Le dernier amour d'Attila Kiss. Alors on se trouve en face de cette Attila Kiss qui est, soyons très clairs, le héros, le personnage principal de ce roman très court. Il est hongrois. Quand on le rencontre dans les premières pages du livre, il est, on pourrait dire, un loser. Il manigance, il fait du trafic, il est marié, mais il a aussi une vie adultérine. D'ailleurs, il fait des enfants dans cette vie adultérine qu'il va laisser. Bref, au bout d'un moment, il se dit « non, c'est plus possible », et il s'en va. Il s'en va très loin de sa vie, de ses deux femmes, de ses filles. Il s'en va très loin. Il arrive à Budapest. Il devient ouvrier dans une usine dont je ne vous dévoilerai pas ce qu'il fait dans l'usine parce que ça a son importance. Il peint. Et c'est comme s'il avait passé un pacte avec lui-même en se disant « bon, ok, j'y suis pas arrivé, donc j'arrête les frais, j'arrête les dégâts, je me cantonne à cette vie-là, la peinture, l'usine, en plus avec un travail de nuit. » Et dans sa vie, à la terrasse d'un café, déboule malheur comme une tempête, Théodora, qui est donc autrichienne, très jeune, dont le père, ténor mondialement reconnu, vient de mourir, et elle arrive telle une bourrasque dans sa vie, et ils vont tomber éperdument amoureux. Et Julia Carninon, sous sa plume, va nous faire avancer petit à petit dans la découverte de ce qu'ils sont tous les deux, c'est-à-dire exactement comme quand on vit une rencontre amoureuse, c'est-à-dire d'abord on est ébloui par ça, ensuite on se rend compte malgré tout de ça, et puis on va aussi découvrir en passant par un autre côté que ben, y a ça aussi, et le résultat sur toile de fond de l'histoire des deux pays, l'Autriche et la Hongrie, qui sont deux pays frères-ennemis, va accompagner leur histoire d'amour. Le résultat est juste, mais d'une intelligence rare, d'une finesse et d'une subtilité, mais alors vraiment incroyable. Et le couple qu'ils forment, et cette espèce de personnage qu'est Attila Kiss dans ce couple-là, moi, je vous le dirais bien comme ça. «
Sometimes I see faces.
Voilà, c'était Anna Calvi pour évoquer encore une fois le personnage, le couple que forment Attila Kiss et Théodora dans Le Dernier Amour d'Attila Kiss, le second roman de Julia Kerninon qui vient tout juste de paraître aux éditions du Rouergue. Une splendeur, une merveille, vraiment. Et comme j'ai beaucoup, beaucoup de chance, il est grand temps pour moi de recevoir Julia Kerninon. Julia Kerninon, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans Rock and Page. Le Dernier Amour d'Attila Kiss est votre second roman. Il vient après Buvard, qui était votre premier roman et un roman exceptionnel tout autant que Le Dernier Amour d'Attila Kiss. Comment vous le racontez-vous, ce roman-là, votre second roman ?
Bonjour. Attila Kiss, c'est une histoire d'amour et de géographie. C'est un roman, c'est un petit roman, c'est assez modeste, sur la rencontre et sur cette partie-là du rapport amoureux. Il y a beaucoup de livres sur l'amour, mais moi je voulais raconter les petits pas qu'on fait l'un vers l'autre quand on tombe amoureux et les découvertes qu'on fait de l'autre jusqu'à ce qu'on parvienne à s'en faire une image exacte et précise.
Alors comment il est né ce roman ? À la suite de Buvard, qui a connu un très bel accueil par la critique, vous aviez envie ou besoin de quoi ?
C'est pas comme ça que ça s'est passé, parce qu'en fait, la première version de Buvard, donc l'idée de Buvard est vraiment la première version, elle date d'il y a quasiment 10 ans, quand j'avais 20 ans et que je suis allée vivre à Budapest. Mmh. J'ai écrit la première version de Buvard à l'automne et la première version d'Attila Kiss en janvier de l'année suivante.
D'accord.
Donc, j'ai pas écrit Attila Kiss en réaction à ce qui était arrivé à Buvard après publication. Le roman existait déjà, si on veut. Donc, je l'ai retravaillé l'été dernier, pour qu'ils sortent en janvier cette année.
Très bien. Alors vous faites, effectivement, vous l'avez dit assez rapidement, mais il est question de géographie, de territoire, autour d'un mot, un seul. Enfin, moi, je dirais que c'est le mot histoire. Alors, il y a l'histoire avec un grand H, l'histoire, celle qui touche les relations entre la Hongrie et l'Autriche, l'histoire entre Théodora, l'Autrichienne, et puis Attila, l'Hongrois, mais leurs histoires aussi familiales, comme si vous aviez pris un projecteur et vous aviez tourné autour de ce mot-là, presque jusqu'à lui soutirer tous ses sens, en fait.
Oui, un peu, si on veut. Le truc, c'est que dans la première version de ce livre, j'avais des personnages, mais j'avais pas vraiment de sujet. J'avais Attila qui était très caractérisé, qui était un personnage. Enfin, moi, j'avais jamais créé un personnage comme ça avant, donc forcément, ça m'intéressait. Mais je savais pas trop ce qui se passait. J'ai souvent du mal à trouver ce qui arrive dans mes livres. Et puis finalement, je me suis dit, mais c'est ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est des êtres différents qui se rencontrent, et de cette toute petite chose, je vais faire une aventure. Et en ponctuant ça, effectivement, de la grande histoire de l'Empire austro-hongrois, sans en faire pour autant chacun des symboles de deux pays. C'est pas du tout un roman métaphorique, c'est un tout petit roman sur une toute petite partie de temps, sur une toute petite chose qui est le fait de tomber amoureux, avec en tapisserie de fond l'histoire des guerres européennes, en gros.
Vous avez choisi à vos deux personnages des prénoms qui sont tout de même assez forts symboliquement, en fait.
Oui et non, parce qu'en fait, Attila, c'est l'équivalent de Jean-Pierre en hongrois.
Oui, tout à fait, mais c'est aussi le roi des Huns.
Oui, je sais, mais en fait, là-bas, il y a plein de gens qui s'appellent Attila, et donc au bout d'un moment, forcément, en français, ça rend
oui,
c'est très frappant.
Ne l'appelons pas Jean-Pierre.
Oui, c'est ça, mais je veux dire, c'est un prénom beaucoup moins original, remis dans son contexte, que ce qui pourrait paraître. J'ai découvert après coup, parce qu'il s'est toujours appelé comme ça, Attila, le prénom du héros ont été les premiers mots que j'ai mis sur la page. Mais j'ai découvert après que Attila, ça voulait dire comme un père, ce qui prend beaucoup de sens dans cette histoire d'amour où il est plus vieux que Théodora et où elle-même a des problèmes avec son père. Et Théodora, ça veut dire cadeau de Dieu, et pour lui, elle est une aubaine.
Oui,
et ça, c'est des choses que j'ai découvert, je sais pas, des années après avoir décidé de les appeler comme ça.
Très bien. Vous, dans la construction, dans l'écriture, vous faites beaucoup d'allers-retours, finalement, entre ce qu'il y a à l'intérieur d'Attila. Et puis et d'ailleurs vous avez choisi de l'écrire en italique, en fait, vous avez choisi de faire cette différence, en fait.
Vous voulez dire des sortes de monologues intérieurs,
oui,
comme ça.
Oui.
Bah je sais pas, j'ai fait ça aussi avec Buvard, les italiques.
Tout à fait.
En tant que lectrice, c'est pas forcément quelque chose que j'aimais beaucoup lire avant, mais en fait. Pour ma façon d'écrire, la manière dont je mets les choses en place, l'italique me semble très très utile et j'essaie que ce soit pas trop long, mais c'est important.
Utile à quoi ?
Je sais pas, c'est aussi, c'est utile pour dire ce qui se passe dans sa tête pendant qu'il parle, quoi. Des fois, on poursuit une conversation de façon très équilibrée, mais on est en train d'en avoir une toute autre dans notre tête qu'on n'ose pas rendre publique. Donc ça sert à ça, ça sert à toutes les choses qu'il dit pas aussi. Attila, il est très 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 silencieux en réalité dans ce livre. Une grande partie du chemin qu'il va faire vers Théodora, il va d'abord le faire dans sa tête et il va récriminer dans sa tête. Et donc ça servait à ça. Mon héros, c'était vraiment Attila Kiss. Et l'idée, c'était que le que le lecteur soit de son côté dans l'histoire.
Tout à fait. Et ce que j'ai retrouvé, même si alors le dernier amour d'Attila Kiss et Buvard sont complètement différents, il y a quand même le point commun que je leur ai trouvé, c'est aussi cette question de celui qui crée. Une sorte de mise en abîme de ce que vous seriez vous aussi et de ses rapports avec les autres dans la vie quand il ne crée pas en fait. C'est-à-dire que Caroline Anne Spacek est une écrivain géniale mais elle est aussi elle peut aussi être un tyran dans la vie. Le père de Théodora est un musicien génial. Attila peint, c'est une question qui reste au cœur de vos projets littéraires.
Je sais pas trop. Il y a un écrivain américain qui a dit plus ça va et plus les écrivains ne racontent que des histoires d'écrivains parce qu'ils sont tous écrivains depuis tellement longtemps qu'ils ne connaissent plus personne qui a un autre métier. C'est pas complètement vrai, mais il y a une part de réalité. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle. Mais le truc, c'est que je pense que c'est vraiment dû au fait que ces deux livres-là, ils ont trouvé leur origine la même année. Et je pense que c'était une année où j'avais beaucoup envie de parler effectivement de création. Dans les premières versions, Attila peignait comme dans cette version finale, mais il avait beaucoup de succès et j'ai enlevé ça parce que c'était une sorte de copycat de ce que j'ai fait avec Caroline. Mm-hmm. J'avais envie de parler du succès, du talent fulgurant, parce que c'est des sujets très fantasmants pour les êtres humains normaux comme moi. Et je trouvais ça cool. Et voilà, mais dans les livres sur lesquels je travaille en ce moment, il n'est pas question d'art, il me semble. Je parle de choses beaucoup plus pratique, pragmatique.
Très bien.
Donc ça m'a posé question dans ma jeunesse, on va dire.
Et puis donc, pareil, quelque chose qui... cette ville, Budapest en tout cas, relie aussi Buvard et le dernier amour d'Attila Kiss. Il y avait bien sûr, Budapest est beaucoup moins présent dans Buvard, mais vous aviez aussi besoin d'extérioriser ce lien que vous avez avec Budapest.
Je sais pas trop. Le truc, c'était que quand même, quand j'ai écrit Buvard, en tout cas quand j'ai commencé à l'écrire, j'étais très jeune, j'avais 20 ans. Et du coup, j'avais pas beaucoup d'éléments dans ma besace, d'éléments narratifs à utiliser. J'avais pas très envie de parler d'endroits où j'étais pas allée parce que j'avais peur que ça sonne pas très vrai. Mm-hmm. Donc j'étais réduite aux endroits que j'avais vraiment visités. Donc c'est pour ça que Caroline faisait Caroline se déplace dans tous les pays que je connais. Mm-hmm. Et elle fait une brève escale à Budapest, qui est l'endroit à l'étranger que je connais le mieux. Mais c'était simplement une de ses nombreuses escales et pour elle, elle n'était pas si significative que ça. Mmh. La chose importante pour Caroline se produit à Berlin. Pas
tout à fait, oui. Tout à fait.
Mais avec Attila, il y avait vraiment... Moi, je ne parle pas hongrois, je ne prétendrais absolument pas avoir percé les secrets de la société hongroise, ni ancienne ni actuelle. J'ai lu beaucoup de livres sur l'histoire de la Hongrie, mais je ne suis pas particulièrement douée en tant qu'historienne. Mais il y avait quelque chose, il y avait une toute petite... Il y avait une histoire, il y a une histoire entre Budapest et Vienne, à cet endroit du monde, ce bassin des Carpates, cette langue bizarre, ce peuple toujours traversé, les Huns. Il y a une histoire à cet endroit du monde, en tout cas pour moi, il y en avait une. Et donc c'est pour ça que j'ai eu envie de parler de ça. Il y avait quelque chose de trop merveilleux dans Budapest.
Julia Carninon, vraiment, mais merci pour ces deux moments de lecture vraiment incroyables. Vous ne couperez pas à la question Rock and Page. Si vous deviez évoquer le dernier amour d'Attila Kiss sans en parler, mais en choisissant un seul titre de musique, quel serait ce titre ?
Ce serait une chanson hongroise que j'ai entendue la première fois que je suis partie de Budapest dans le taxi toute seule en pleurant. C'est un chanteur qui s'appelle Akos et ça s'appelle Keresem az utam. Ça veut dire je cherche ma voix.
Merci, merci infiniment. Voilà, c'était Julia Carninon au micro de Rock and Page qui est fini pour aujourd'hui. Merci à Bruno qui a réalisé la technique de cette émission. Je vous rappelle que nous venons d'évoquer Le dernier amour d'Attila Kiss, le second roman de Julia Carninon, paru aux éditions du Rouergue tout récemment. Vraiment, vraiment, il faut lire ce livre qui est vraiment époustouflant dans sa construction, dans son écriture, dans sa langue, dans ce qu'on y découvre, dans sa justesse, dans sa finesse. Merci, merci Julia Carninon. Voilà, Rock and Page, c'est fini. Je vous laisse en bonne compagnie. Prenez soin de vous et à tout bientôt.
Lights he varies offshore through the tides of ocean. rising sun. As we are floating in the blue, I am softly watching you. But will your eyes betray what burns inside you? Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is there any chance you could see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you. Where are you? Drifted ashore through the streams of oceans, whispers wasted in the sand. As we were dancing in the blue, I was synchronized with you. But now the sound of love is out of tune. Whatever I feel for you, you only seem to care. Is there any chance you can see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you. Every trace of you. But where are you?